Monique Éloi, donc vous êtes directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé animale, l'OIE. L'OIE qui, avec d'autres organisations onusiennes, notamment donc la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, mais aussi l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, vient de publier un rapport qui fait le point sur donc, le problème des maladies pharmacorésistantes, la résistance aux antimicrobiens, mais aussi donc, qui véritablement lance l'alerte et essaie de mettre en garde contre le danger que représente donc, cette résistance aux antimicrobiens. Alors aujourd'hui, quelle est la situation, Monique Éloi, concernant ce problème et ce défi?
Je crois que c'est important de bien noter, comme vous l'avez souligné, qu'avec ce rapport, on maintient vraiment une alerte non seulement scientifique, technique, mais également politique. Parce que c'est un sujet, l'antibiorésistance, qui est quand même discuté depuis de nombreuses années, mais souvent uniquement dans les cercles scientifiques. Et aujourd'hui, il a acquis une visibilité qui permet d'avancer sur ce sujet, parce que non seulement au niveau mondial et international, mais aussi au niveau des autorités nationales, il y a eu cette prise de conscience qu'on ne peut plus retarder et que c'est maintenant effectivement qu'il faut agir et prendre des mesures, et des mesures qui soient coordonnées. C'est-à-dire bien sûr, chacun doit agir à son niveau, mais c'est aussi l'intérêt à la fois du rapport qui a été présenté par ce groupe des Nations Unies, mais également par toutes les stratégies et plans d'action qui ont été développés au cours des dernières années, notamment par l'OMS, la FAO et notre organisation, l'OIE, de façon à ce que ces initiatives et ces plans d'action nationaux se fassent dans un cadre qui permette une coordination et une collaboration aussi, parce que c'est important, la collaboration, et que chacun ne soit pas uniquement en parallèle. Donc, là aussi, je crois que ce sont quand même des éléments très positifs. Il y a quand même déjà quelques résultats tangibles, et ça, c'est aussi intéressant. Et dans le secteur vétérinaire, les résultats tangibles, notamment qu'il y a davantage de pays qui ont développé, même si ce n'est pas toujours finalisé, mais qui ont développé un plan d'action, qui ont commencé à mettre en place des dispositifs pour recueillir des données. Et ça nous permet, nous, ensuite, de pouvoir publier chaque année un rapport sur l'utilisation des antimicrobiens dans les différentes espèces animales, avec une amélioration de la qualité des informations et du détail de l'information qui est fournie, ce qui montre que les pays se sont engagés et essayent de faire toujours mieux. Et puis, cela permet aussi de voir d'autres résultats tout à fait tangibles, et par exemple l'utilisation des antibiotiques comme facteur de croissance, où on voit d'année en année, il y a de moins en moins de pays qui autorisent ce type d'utilisation. Donc oui, certains estiment peut-être que ça ne va pas assez vite, mais je crois qu'il faut avoir aussi le côté positif des choses, à savoir qu'il y a réellement un momentum qui a été engagé, et que ce momentum, il faut qu'on continue à l'accompagner pour qu'il continue à être toujours dynamique. Mais en tout cas, le train est lancé, et ça, c'est vraiment important.
Alors justement, l'OIE et d'autres organisations communiquent régulièrement, comme vous le disiez. En juillet 2018, il y avait un communiqué qui faisait part de l'intensification des efforts pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens. Mais il y avait aussi, ce qui était quand même souligné dans ce document, une forme de disparité entre les États. Donc il y a plus d'une centaine d'États qui aujourd'hui sont dotés d'un système de surveillance. Il y avait pas mal de chiffres positifs, mais il y a quand même des grandes disparités. Est-ce que l'un des problèmes aujourd'hui, c'est justement ces disparités entre États?
Je ne crois pas qu'on puisse dire que le problème soit la disparité, parce que c'est en fait une conséquence, et la cause, c'est plutôt la différence que les pays ont dans les moyens pour pouvoir mettre en place des actions. On a certains pays qui, bien sûr, ont démarré il y a déjà beaucoup de temps, je pense en particulier aux pays développés, donc ils ont une histoire, ils ont également des ressources financières et humaines pour pouvoir investir dans ce sujet. Et puis, il y a d'autres pays qui ont des ressources beaucoup plus modestes. Et de ce fait-là, effectivement, les résultats ne sont pas aussi importants que ce dont on aimerait. Et c'est là aussi où je crois que c'est important d'avoir, et intéressant d'avoir eu cet élan qui a été créé et cette prise de conscience politique. Et que de ce fait-là, on a des grands bailleurs de fonds qui, maintenant aussi, aident à investir dans ces pays pour les développer, les structures, les systèmes, les outils qui vont leur permettre de passer d'un plan théorique à une action opérationnelle, et donc avec des résultats, et des résultats cette fois-ci sur le long terme. Mais c'est vrai que c'est compliqué, parce qu'il ne suffit pas de dire on utilise moins de médicaments. Il faut non seulement convaincre les gens, mais il faut également leur proposer des alternatives. Dans notre secteur animal, lorsque vous avez un éleveur qui est face à des animaux qui sont malades, il ne suffit pas de dire d'utiliser moins de médicaments. Il faut également lui apporter une formation, des outils pour qu'il ait des meilleures pratiques d'élevage, pour qu'il puisse mieux contrôler les animaux qu'il achète. Donc là aussi, tout cela, ça prend un petit peu de temps, parce qu'il faut que ça rentre dans l'habitude des gens. Il faut également qu'ils comprennent bien que leur action individuelle, c'est en fait une contribution à une action collective. Et ça, que ce soit pour ce sujet-là, comme pour la protection de l'environnement, c'est une addition de petites choses qui font qu'à un moment donné, on arrive à faire vraiment un mouvement d'ampleur. Et donc oui, c'est vrai que certains pays ont plus de mal à démarrer parce qu'ils ont aussi un tas d'autres défis auxquels il faut qu'ils fassent face, que les priorités ne sont pas toujours faciles pour eux à dessiner.
Alors, le communiqué de l'AFAO notamment, qui cite de votre organisation, l'OMS, donc, et cette fameuse structure, le groupe de coordination ad hoc interinstitution des Nations Unies sur la résistance aux antimicrobiens, tire donc quand même la sonnette d'alarme. Et il y a notamment une phrase qui interpelle, « Si aucune mesure n'est prise, les maladies pharmacoresistantes pourraient causer 10 millions de décès par an d'ici à 2050. » Il y a également des risques en termes économiques, également en termes d'extrême pauvreté. Donc, l'enjeu aujourd'hui, il est clair. Vous nous parliez donc des différences entre pays et des efforts qui sont faits du momentum. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quand même des actions d'urgence qu'il faut mettre en place? Est-ce qu'il faut accélérer ce fameux élan?
Il faut toujours essayer d'accélérer ce type d'élan parce que les résultats sont toujours un petit peu longs à obtenir. Donc, c'est toujours nécessaire. Et c'est vrai qu'en particulier dans des pays en voie de développement ou qui n'ont pas les moyens, il faut absolument les aider. Il faut les aider parce qu'ils ont aussi non seulement une difficulté d'accès à des produits qui sont avec les bonnes autorisations. Il y a tout le problème des produits contrefaits, le problème également des marchés noirs et illégaux, les introductions qui ne se font pas par les filières classiques. Et ça, c'est très difficile pour un pays un peu démuni de faire face à cela. Donc il y a tous ces enjeux, que ce soit pour la médecine humaine sur laquelle je ne me prononcerai pas, mais également sur la médecine vétérinaire. Car lorsqu'on évoque les milliers de morts supplémentaires dues aux maladies et aux résistances aux antibiotiques qu'on pourrait avoir, nous rencontrons également des choses similaires dans le secteur animal. Si nous n'arrivons pas à préserver l'arsenal thérapeutique pour les espèces animales, nous n'arriverons pas non plus à juguler, à contrôler des maladies animales qui ensuite peuvent se transmettre directement à l'homme, mais qui peuvent aussi se transmettre via l'alimentation et qui aussi sont importantes pour les animaux eux-mêmes et tout ce qui concerne l'économie des filières et donc l'économie des familles qui élèvent ces animaux. Donc ce sont des problèmes qui sont très complexes et c'est là où il faut aider les pays, c'est à appréhender cette complexité du sujet. En commençant peut-être par certaines composantes du système, il faut qu'ils puissent avoir cette vue d'ensemble, il faut qu'on puisse les aider. Et donc ça, c'est aussi une aide sur leur structure et sur la qualité de leurs services pour pouvoir les suivre. Et je crois que c'est là aussi intéressant de noter au niveau international comment des organisations comme l'OMS, la FAO, l'OIE ont réussi à créer et avoir une collaboration que moi j'estime efficace et solide, c'est que l'on voit maintenant au niveau des pays comment on retrouve un peu cette déclinaison et comment ce sujet de l'antibiorésistance était un facteur éminemment positif pour que des secteurs qui ne se parlaient pas beaucoup se parlent davantage aujourd'hui et construisent aujourd'hui justement une stratégie d'action. Et là, il faut qu'on continue à les encourager parce que sinon, ça va retomber.
Alors justement, dans les partenaires qu'il faut mobiliser, vous parliez de l'engagement des États, vous parliez aussi donc de sensibilisation, il y a des cadres réglementaires, lit-on, qui doivent être plus fermes. Les autres partenaires, je pense aux universitaires, je pense tout simplement à la société civile et aux populations, est-ce que là également il y a un travail et il y a un enjeu?
Il y a également un enjeu, aussi bien vis-à-vis du monde universitaire que vis-à-vis du public en général. Vis-à-vis du monde universitaire, je pense que là aussi, il faut qu'ils aient conscience que dans l'enseignement qu'ils délivrent aux étudiants qui sortiront des écoles demain, mais également dans les enseignements post-universitaires qui sont organisés pour ceux qui sont déjà aujourd'hui médecins, vétérinaires, biologistes, que ces questions soient également remises dans les programmes de formation, de façon à ce que les pratiques de prescription, de délivrance de ces produits soit effectivement adapté aux enjeux actuels. Et puis pour le grand public, il y a aussi une réelle importance de la communication et de l'information. Alors, dans le monde médical, on parle bien sûr des problématiques d'automédication. Dans le monde plus vétérinaire, bien oui, là aussi, les antibiotiques ne sont pas automatiques. Il faut faire appel aux spécialistes, aux vétérinaires, pour mieux identifier la maladie, pour savoir quelles molécules il faut utiliser, et non pas, j'oserais dire, tout et n'importe quoi, avec un large spectre, comme ça on est sûr qu'on couvre toutes les hypothèses. C'est ce que je vous disais en termes de bonnes pratiques. Il faut savoir gérer un élevage et pas uniquement avec des médicaments. Et ça, c'est de la formation et de la communication qui prend aussi un peu de temps, mais il faut investir dedans. Il faut qu'on ait des techniciens d'élevage qui soient déjà formés pour pouvoir répandre en quelque sorte cette bonne parole et transmettre cette information, cette éducation aux éleveurs, que ça soit dans les pays développés comme dans les pays qui soient les moins développés, d'où l'importance de la formation dans notre secteur, des vétérinaires, des paraprofessionnels vétérinaires, de tous ceux qui, dans les différentes communautés, aident aussi à la gestion sanitaire des animaux.
Est-ce que votre croisade et le mouvement de mobilisation se heurtent à des réticences ou également à des oppositions par rapport à l'utilisation d'antibiotiques ?
Alors, les oppositions que l'on peut rencontrer, je dirais, elles sont de différentes natures. À la fois les oppositions de certains qui, j'oserais dire, sont un peu débordés par beaucoup de priorités et beaucoup de défis sanitaires auxquels ils doivent répondre. Et donc, c'en est un supplémentaire et pour eux, c'est quelquefois difficile à les absorber. Par contre, il me semble que les opinions adverses que l'on pouvait encore rencontrer il y a une dizaine d'années sont de moins en moins importantes parce qu'il y a quand même aujourd'hui des évidences que c'est vraiment une nécessité de s'organiser et de continuer à agir. Donc, bien sûr, de s'il pourra trouver des opinions, mais qui restent minoritaires, en tout cas qui le sont de plus en plus. Donc là, je crois qu'aujourd'hui, les oppositions, elles sont plus un problème de moyens, encore une fois, et de capacité des acteurs à pouvoir s'engager et avoir des actions qui puissent être efficaces et s'engager sur le long terme et pas uniquement dans l'immédiateté avec quelques actions. Parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête comme étant du long terme. Parce qu'on parle des actions, mais aussi tout le développement technologique. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit capable aussi de proposer des alternatives, et pas de dire utiliser moins de médicaments. Il faut que ça s'inscrive dans une démarche à la fois de pédagogie et d'information sur les alternatives. Alternatives qui peuvent déjà exister aujourd'hui, mais alternatives qu'il faut continuer à développer. Donc là aussi, c'est le travail des universitaires ou des équipes scientifiques privées et publiques de continuer à investir sur ce secteur, même si quelquefois le résultat économique immédiat n'est pas évident.
Quand on voit la présentation, on pourrait presque dire la charte et les objectifs de l'OIE, on parle de transparence, d'information scientifique, de solidarité internationale, et on parle bien sûr de sécurité sanitaire des aliments, de la santé surtout des animaux et du bien-être des animaux. Est-ce que c'est une fibre que vous utilisez ? Est-ce qu'aujourd'hui, parler du bien-être des animaux, de la santé animale, c'est quelque chose qui fait sens ?
Oui, ça fait toujours sens de parler de santé animale et de bien-être des animaux parce que je pense que d'abord, les consommateurs sont de plus en plus intéressés aux conditions dans lesquelles les animaux qui produisent leurs denrées alimentaires sont élevés, dans lesquels ils sont également soignés, quels produits sont utilisés, quels sont les risques avec des résidus dans l'alimentation si jamais ces molécules ne sont pas bien utilisées. Donc oui, il y a effectivement cet intérêt direct pour sa santé propre, mais je crois aussi parce que ça fait partie d'une composante d'un développement durable de la production animale qui n'est pas uniquement une production de denrées alimentaires, mais également des animaux qui font vivre des familles, des animaux qui entretiennent des paysages, qui font vivre des régions, y compris des régions pour lesquelles il n'y a quelquefois pas d'autres options économiques pour les populations qui y vivent. Donc ça rend justement dans ce contexte beaucoup plus large, je crois, de la façon dont on vit et dont on vit sur notre planète.
Monique Éloi, merci. Je rappelle donc que vous êtes directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé animale, l'OIE.